Alors, dites-nous un peu, comment est-ce que les Gabonais vivent ces premières heures, ces premiers jours sous un régime militaire aujourd'hui?
Voilà une journée sous un régime militaire qui commence plutôt comme toutes les autres journées. Il y a 48 heures, on n'aurait pas vu le centre-ville avec un branle-bas d'usagers. Les services ont repris ce matin, les commerces également. Donc, surtout des interrogations après la mise en place de ce comité pour la transition et la restauration des institutions, notamment sur son agenda, sur les modalités pratiques de son fonctionnement. Autant de questions qui sont à l'ordre du jour ici, qui constituent les préoccupations des Gabonais après l'euphorie populaire que ce coup de force a suscité. Il y a donc ces interrogations, ces appréhensions, à savoir qu'est-ce que finalement les putschistes vont faire du pouvoir, avec qui ils vont composer, autant de questions que l'opinion se pose ici.
Je crois comprendre qu'il y avait une rencontre entre les militaires et l'opposition, l'ancienne opposition, si on peut dire.
Oui, les militaires et la coalition de l'opposition Alternance 2023 avaient donc au programme aujourd'hui une concertation. On n'a pas encore le contenu de cette concertation, c'est d'autant plus qu'au moment où nous parlons, la coalition de l'opposition Alternance 2023 devrait rendre compte de cette rencontre. On en saura un peu plus dans les jours qui viennent ou dans les heures qui viennent.
Voilà, merci beaucoup Ismaël, qui suit depuis Libreville pour VOA Afrique, le développement au Gabon. Excellent travail Ismaël. Alors, nous continuons notre discussion ici. Jean-Claude Zamba, dès qu'on a parlé de coup d'État au Gabon, certains ont aussitôt essayé de faire le parallèle avec la série de putsch en Afrique de l'Ouest. Ce serait quand même ignorer un peu les dynamiques internes propres au Gabon, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Même si certains parlent de printemps francophone, il est clair qu'il y a des raisons endogènes, également exogènes. Je pense qu'ici, pour nous, ce qui est plus important, c'est de savoir qu'il n'y a pas eu de bain de sang et que les militaires parlent de la restauration des institutions. Parce que vous savez, comme avait dit Obama, nous n'avons pas besoin d'hommes forts, mais nous avons besoin d'institutions fortes. Ce qui se passe ici au Gabon est les mêmes revendications que tous les peuples au niveau des pays francophones et de toute l'Afrique en général sont à la recherche d'une économie inclusive, d'un partage des richesses inclusives. Il y a beaucoup de situations qui vont se poser devant ce nouveau comité qui est là pour essayer de mettre en place un programme qui va aider le pays à pouvoir aller de l'avant. Il est clair que dans leurs prérogatives, les concertations avec l'opposition, avec la société civile et avec la diaspora, qui est aujourd'hui un élément incontournable dans le développement de ce pays, il est pour nous très important que ce processus se mette en œuvre.
D'accord. Alors, Idriss Fall, le processus électoral de 2016, et je dois rappeler que vous avez couvert les élections de 2016 pour VOA Afrique, ce processus était très tendu, très difficile pour le pays, mais le régime avait quand même tenu jusque-là. Qu'est-ce qui a changé cette fois, selon vous?
Je crois que en 2016, Ali Bongo avait gagné pour une différence de 5 600 voix. Face à Jinping, et que le pays s'est embrasé immédiatement dès la proclamation des résultats, les pneus brûlés partout, voilà quoi, et qu'il est resté là au pouvoir, et que donc là, on va vers des élections et on change les règles du jeu peu avant la fin du match, peu avant, c'est-à-dire que le bulletin unique. On demande aux gens de voter pour le président, de voter en même temps sur la même liste avec les
vous
députés.
Pensez que cette fois-ci, les militaires ont voulu éviter le scénario de 2016 avec crise post-électorale?
Ça pouvait être beaucoup plus violent qu'en 2016 que de faire avaler la pilule de 64% des voix et annoncer ça à 4 heures du matin. Au moins en 2016, c'était en plein jour qu'on avait fait ça. Je pense que donc l'armée a pris ses responsabilités et ça me paraît salutaire, si j'ose dire.
Alors, Anouchka, aujourd'hui, le président Bongo est aux arrêts, de même que certains dignitaires de l'ex-président, mais le général Oligui semble adopter une approche modérée jusque-là envers son ancien patron. Où se trouve un peu l'équilibre entre la nécessité de réconcilier les Gabonais et peut-être l'exigence de certains qui réclament des comptes à l'ancien régime.
Alors, l'heure aujourd'hui n'est pas au règlement de compte. Ce qui est important aujourd'hui, comme l'a relevé mon compatriote Jean-Claude, c'est qu'il n'y ait pas eu d'effusion de sang. Nous avons été traumatisés par ce qui s'est passé en 2016. Je tiens à souligner tout de même qu'Ali Bongo n'a pas gagné les élections en 2016. La différence de 5000 voix vient du fait qu'ils aient augmenté la population dans le Haut-Togo de manière grossière. Et ils ont annulé certains bureaux de vote pour lui permettre de gagner. Bon, aujourd'hui, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé. La conséquence de la responsabilité qu'a prise aujourd'hui les militaires était d'éviter le bain de sang et puis surtout rapprocher les Gabonais les uns des autres, parce qu'aujourd'hui, on était un peu disloqués entre les contre-PDG et les autres Gabonais.
Donc, alors, la diaspora, Anouchka, la diaspora gabonaise a été très active durant tout ce processus. Comment est-ce que vous appréciez le vote de la diaspora cette année?
Alors, on est un peu déçus parce qu'il y a des bureaux de vote qui ont été annulés à la dernière minute. Il y a eu un enrôlement qu'ils ont fait à travers le monde. Donc, le ministère de l'Intérieur s'était attaché à faire un enrôlement. Et à 2 jours de l'élection présidentielle, nous avons appris qu'il y a eu, on va dire, une vingtaine de bureaux de vote qui ont été annulés. Nous avons quand même appelé nos compatriotes de la diaspora à aller voter massivement, à rester pour le dépouillement du vote, de manière à ce que les choses soient claires. Donc, il fallait que nous, on marque notre intérêt à cette élection-là, même si le pourcentage de participants était très faible.
D'accord. Alors, Jean-Claude Zamba, comment est-ce que vous analysez un peu les réactions internationales, celles de la France, les États-Unis, l'Union africaine et aussi la CEMAC?
Bon, c'est une très bonne question. Je pense que c'est quelque chose qu'on continue à voir de façon répétitive. Et nous pensons que ces réactions sont des réactions qui viennent un peu plus tard. Lorsque l'Internet a été coupé le 26 août, nous n'avons vu aucune réaction de chancellerie, aucune réaction de ces différents pays que vous mentionnez ou de ces différentes institutions. Nous allons encore sur le même principe. Qu'est-ce qui emmène à un coup d'État? Qu'est-ce qui emmène à ce que les gens se rebellent? S'il faut attendre qu'il y ait un coup d'État pour qu'il y ait des réactions, nous pensons quand même que c'en est de trop. Les gens viennent dire ça, c'est peut-être un coup d'État de trop. On regarde la réaction même d'Elisabeth Borne. Et c'est quand même intéressant de voir que par rapport au Niger, c'est le président Macron qui a réagi. Par rapport au Gabon, c'est le Premier ministre.
La question de l'Internet est un problème. Qu'est-ce que vous en déduisez? Il y a une différence dans le traitement?
Vous savez, on est maintenant habitué au fait qu'il y ait le deux poids, deux mesures quand il s'agit de la France. Et aujourd'hui, les pays africains, les jeunes, la jeunesse, les Africains ont bien compris ce qui se passe par rapport aux intérêts de l'Occident. Monsieur Charles de Gaulle avait bien dit, il n'y a pas de pays amis, il n'y a que des intérêts. Donc, je pense que la France ne réagit que par rapport à ses intérêts.
Et Idriss Fall, des institutions régionales comme la CEMAC ou la CEAC, est-ce qu'elles peuvent faire grand-chose dans le contexte gabonais? Les autres pays doivent aussi suivre avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe au Gabon, les autres pays de la région.
C'est bizarre que je n'ai pas, au moment où on se parle, je n'ai pas entendu une telle réaction venant d'un pays de la CEMAC ou de la CEAC. À la différence de la CDAO, qui est plus ou moins fonctionnelle au plan unitaire sous-régional, il n'y a pas d'autorité de la CEMAC pour dire, et ils vont dire quoi? Le Cameroun est dirigé par quelqu'un qui est au pouvoir depuis plus de, je sais pas, 40 ans. Le Congo-Brazzaville, c'est pareil. Donc, je n'ai pas entendu un seul chef d'État de la région d'Afrique centrale dire quoi que ce soit par rapport à ce qui se passe au Gabon. Donc, ce n'est pas surprenant du tout.
D'accord. Alors, Anouchka, peut-être sur cette même lancée, avant d'aller aux commentaires Facebook, comment est-ce que vous interprétez un peu, Idriss Fall parle un peu d'écrire un peu un silence dans la région. C'est votre impression aussi, et qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire, rapidement, avant d'aller aux commentaires Facebook?
Alors, le Gabon est quand même un des pays clé en Afrique centrale. Et il est clair que les présidents des pays voisins n'ont pas intérêt à faire de commentaires parce qu'en fait, aujourd'hui, comme le disait Jean-Claude à juste titre, il y a un printemps de l'Afrique centrale, l'Afrique francophone. Et ce serait un précédent pour les pays amis qui aspirent également à la démocratie et puis au renouvellement de la classe politique. Parce qu'il n'est plus possible aujourd'hui, en 2023, que nous ayons des Paul Biya qui sont au pouvoir depuis 1981, en sachant qu'il était d'abord au gouvernement depuis 1962. Donc il est clair qu'aujourd'hui, les Africains, de la partie francophone en tout cas, considèrent qu'il est essentiel et important que la classe politique se renouvelle et qu'il y ait une redistribution de la richesse, parce que nos sols sont très riches. Je parle du Congo, je parle du Gabon, il y a aussi le Tchad. Donc ils ont très peur de ça et ils n'ont aucun intérêt aujourd'hui à venir pointer du doigt leur ancien ami Ali Bongo.
D'accord. Alors nos téléspectateurs et auditeurs ont réagi sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons par exemple Saïdou Bayrou qui nous dit que ce coup d'État est la conséquence du long règne sans partage du clan Bongo. Le putsch perpétré par le haut gradé de l'armée gabonaise dénote du fait qu'Ali Bongo est physiquement diminué pour gouverner le pays depuis son AVC, ce qui a fragilisé son contrôle de l'appareil sécuritaire. Et puis Thierno Omar Diallo à Conakry, il écrit: les différents putschs électoraux qu'il y a eu ces dernières années au Gabon allaient forcément causer un coup d'état militaire comme en Guinée. C'est tout simplement l'achèvement de la lutte citoyenne. Alors, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause.
Incertain. Et ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors nous recherchons la vérité. Quand on ne nous raconte qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. En temps de crise, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. De l'Amérique, nous vous apportons les nouvelles que des gens prennent des risques pour voir. Nous connectons le monde et l'unissons par la vérité. La Voix de l'Amérique, c'est l'actualité dans sa totalité.
De vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Et je rappelle nos invités via Skype à Paris, Anouchka Obezo, présidente de l'association Trop c'est trop. Toujours sur Skype à Atlanta, ici aux États-Unis, Jean-Claude Zamba, analyste politique, et avec moi ici en studio, Idriss Fall, rédacteur en chef à VOA Afrique. Alors, Anouchka, votre organisation, Trop c'est trop, et une bonne partie de la diaspora d'ailleurs, des Gabonais vivant au pays, l'opposition se sont battus pour une alternance politique. Les militaires sont intervenus dans le processus. Qu'attendez-vous de ces militaires, en tout cas pour ce qui est de la transition?
Alors, nous souhaitons dans un premier temps qu'on fasse table rase de tout ce qui se passe, notamment la remise en ordre des institutions. Les discussions ont été amorcées avec la classe politique gabonaise de manière à trouver un consensus. Il est important, comme ils l'ont dit, s'ils sont là pour une restauration des institutions, de mettre les choses, de mettre en place en tout cas les mécanismes qui permettront de repartir sur de nouvelles bases. Donc nous attendons de ces militaires qu'ils continuent la responsabilité qu'ils ont prise de remettre le Gabon en marche de bataille pour qu'on puisse parler des sorts vers la félicité.
Jean-Claude, vous ne craignez pas une confiscation du pouvoir par les militaires ?
Non, je ne pense pas. Je pense, comme a dit ma collègue, il est temps pour le Gabon de suivre ce que son hymne national dit et sort vers la félicité. Nous avons des militaires, des forces de défense responsables et c'est pourquoi elles ont tenu à s'assurer qu'il n'y ait pas d'effusion de sang et assurer devant la communauté internationale qu'elles prennent leurs responsabilités pour une restauration des institutions et faire en sorte que le Gabon puisse profiter à tous les niveaux de ses ressources naturelles.
Alors, Idriss Fall, il est vrai que chaque coup d'État est différent, hein, mais en Afrique de l'Ouest, par exemple, les militaires qui ont pris le pouvoir ont prolongé les transitions, les discussions avec la CDAO traînent un peu. Est-ce que vous ne craignez pas un peu que le même scénario, même si chaque pays est différent?
Absolument, on ne sait jamais. Un coup d'État ne se prévoit pas. Il arrive, quand il est bien préparé, ça se passe comme au Gabon. Et le cas, par exemple, de la Guinée, la CDAO était là quand quelqu'un a voulu changer les règles du jeu et s'est présenté en troisième mandat. Et qu'un coup d'État est intervenu, tout le monde crie au coup d'État. Donc, je ne sais pas mieux, vous, Jean-Claude le disait tout à l'heure, de prévenir que de guérir, en sens que l'Union africaine et toutes ces organisations sous-régionales voient quand même ce qui se passe dans nos pays-là. Des chefs d'État qui sont au pouvoir pendant 40 ans et on ne dit rien et on les enlève. Maintenant, tout le monde se tourne à crier coup d'État, coup d'État. Et au Gabon, il y a
une... C'est un peu le reproche. On ne réagit pas quand il s'agit de ce qu'ils appellent, entre guillemets, le coup d'État constitutionnel, mais quand c'est des coups d'État militaires...
Mais donc, c'est ça. Et la communauté internationale aussi a des responsabilités dans ce sens-là. Le Gabon est presque la chasse gardée de la France. C'est la France qui prend le pétrole, qui achète le manganèse, qui achète le bois. Et même les compagnies ferroviaires appartiennent à la France. Donc, et ils ont réagi de manière différente. Notre sœur le disait tout à l'heure, entre le Niger et le Gabon. Parce qu'il y a des intérêts économiques énormes. Maintenant que les Gabonais se retrouvent, c'est à eux de remettre de l'ordre dans leurs affaires et reconstruire ce pays qui est un pays magnifique. Tous les Gabonais doivent pouvoir y vivre de manière heureuse parce qu'ils ne sont pas nombreux et que quand même, je pense qu'il y a beaucoup d'argent. On se rappelle des années où même des présidents français recevaient quelques cadeaux de M. Omar Bongo. Donc, et ça doit être fini.
Alors, j'ai envie de poser cette question à tout le monde. D'abord, Anouchka, le Gabon, est-ce qu'il peut être un nouveau laboratoire de démocratie en Afrique centrale, par exemple?
Alors, c'est notre souhait. Merci à M. Fall pour son intervention. Je tiens à préciser que concernant les organisations internationales, nous, Trocetro, avec le concours de M. Nzamba, nous avons parcouru le monde. Nous avons été aux États-Unis et la Voix de l'Afrique nous avait reçus à cette époque-là où nous crions à l'aide, demande à l'aide parce qu'on sentait bien qu'il y a quelque chose qui allait se passer au Gabon. Dieu merci pour nous, il n'y a pas eu d'effusion de sang. Aujourd'hui, nous, ce que nous attendons, c'est que ces organismes internationaux qui interviennent et qui réagissent au gré de leurs intérêts sachent qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération ne permettra plus qu'au gré des humeurs de certains ou des intérêts, dit ce qui est bon ou ce qui est mauvais. On va considérer effectivement qu'aujourd'hui, nous aspirons à autre chose. Nous serons le laboratoire et nous le souhaitons parce que le Gabon, effectivement, est une des chasses gardées de la France et nous refusons aujourd'hui, avec cette restauration que nous souhaitons des institutions, qu'il y ait une ingérence de la France parce qu'elle n'a pas écouté nos appels depuis 2009, depuis 2016 ou depuis nous avons battu le pavé à travers le monde et aujourd'hui nous commémorons ce 31 août 2023 la disparition de nombreux Gabonais qui ont souhaité que Jean Ping préside aux destinées du pays.
Et vous pensez que ça va changer maintenant avec ce coup d'État, que la France va peut-être revoir sa position comme vous le souhaitez?
La France n'aura plus de choix parce qu'aujourd'hui elle est en train de perdre pied auprès de ses anciennes colonies. Et il y a un sentiment anti-français qui naît. Moi, je suis surprise de savoir que beaucoup d'observateurs internationaux disent qu'au Gabon, il n'y a pas de sentiment anti-français. Là, ils vont le ressentir de plus en plus. S'ils faisaient, il y a un déni certainement, Mais aujourd'hui, nous aspirons à ce que ce soit les Gabonais eux-mêmes qui président à la destinée de leur pays.
Jean-Claude, le Gabon comme modèle en Afrique centrale, c'est peut-être comment il faut s'y plonger.
Ben, je pense que c'est un très bon défi à relever et que le Gabon va le relever. Nous avons à peu près 2 millions en termes de population, beaucoup de richesses au niveau du manganèse, deuxième exportateur au monde. Les exportations du manganèse ont augmenté en 2021 de 63%. Il est très possible. Là, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la remise en cause des institutions. Quand on regarde ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest au niveau des pays comme le Mali, le Burkina et même au niveau du Niger, on regarde les accords de défense. Donc quand on parle de remettre en place ou de remettre à zéro les institutions et de revoir tout ce qui sont les textes, je pense que ce sont des éléments qui vont nous permettre à mettre en place un Gabon plus fort, un Gabon plus inclusif pour que ce soit tous les Gabonais. Aujourd'hui, nous avons un tiers de la population gabonaise qui vit sous le seuil de pauvreté et cela selon les indications de la Banque mondiale. Il est impossible qu'aujourd'hui, avec toutes les richesses que le Gabon regorge, avec sa diaspora, avec ses ressources humaines, que le Gabon soit toujours au niveau où il soit. Il est important qu'avec cette opportunité qui se présente, que le Gabon se lève, les Gabonais se lèvent, et ceux qui veulent accompagner le Gabon nous accompagnent dans cette opportunité qui est devant nous.
Le moins qu'on puisse dire quand même, c'est que la démocratie ne semble pas bien se porter en Afrique en ce moment. Vous avez espoir
qu'on... quand un changement est salutaire, il faut le saluer parce que ce qui s'est passé au Gabon, c'est une opération de salubrité publique. Donc on ne peut que saluer cela.
Là, je parle globalement les débats sur le troisième mandat, les coups d'État fondés ou non fondés.
Il faut quand même faire table rase pour reconstruire. On ne peut pas construire une démocratie véritable avec une famille qui est au pouvoir pendant 55 ans. Ce n'est pas possible. Il faut faire table rase, rassembler tous les Gabonais et œuvrer ensemble pour relever tous les défis qui vont se poser à ce pays.
D'accord, nous n'avons pas beaucoup de temps. Anouchka, votre mot sur l'avenir de la démocratie globalement en Afrique, hein, pas seulement au Gabon.
Alors, nous appelons donc la jeunesse africaine engagée et responsable à considérer que c'est à elle de construire l'Afrique de demain. Et nous ne voulons plus être en marge du développement, mais nous souhaitons que ça se fasse dans l'équité et dans le respect de ce que nous sommes. Nous avons des richesses, nous avons le droit d'en jouir et de faire profiter nos enfants. Nous, aujourd'hui, nous sommes en Europe, nous sommes en Occident, nous avons l'opportunité de pouvoir nous exprimer, de pouvoir construire un certain nombre de choses. Nous le voulons également en Afrique.
On n'est pas obligé de quitter l'Afrique pour pouvoir s'exprimer librement. Jean-Claude...
Certainement pas le Gabon. Avec 2 millions d'habitants, c'est vraiment dommage.
D'accord. Jean-Claude, vous avez 20 secondes.
Moi, je demanderai à ceux, encore une fois, la libération des tous les prisonniers politiques. Nous avons M. Kelly Ondo qui était emprisonné. Nous souhaiterons qu'il soit libéré. Nous demandons également que l'intégrité de tous ceux qui ont servi le Gabon, inclus le président de la République, que leur intégrité physique soit préservée. Pour nous, comme disait ma consoeur, il est important que la jeunesse africaine prenne en main leur avenir. Et il n'y a que eux, il n'y a que les Africains qui peuvent développer l'Afrique. Donc c'est une opportunité pour nous. Je pense que les Gabonais vont la saisir.
Voilà, merci beaucoup. Fin de ce Washington Forum. Merci énormément à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires, mais également sur nos différentes plateformes digitales. Merci à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.